Bonjour à tous, bienvenue. Nous rencontrons un apiculteur de Haute-Garonne décidé à faire bouger les choses. Il vient d'envoyer 60 000 lettres dans le monde entier avec des graines de trèfle pour que les abeilles puissent butiner. Ensuite, nous sommes au Grand Bornand pour l'événement caritatif et la course glisse en cœur. Et enfin, nous revenons sur les origines de la tarte tatin en Sologne. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce vendredi 22 mars. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Ledernier, bonjour à tous.
C'est devenu une habitude depuis la mi-novembre. On essaie le vendredi d'imaginer le samedi des gilets jaunes avec des caractéristiques différentes selon les week-ends.
Et c'est encore le cas demain, Nicolas Ballu, une nouvelle donne militaire et des lieux de manif interdits.
Oui, et bizarrement, les soldats de l'opération Sentinelle en renfort, ça ne rassure personne.
On va passer par le Havre après la démission du maire qui avait succédé à Édouard Philippe.
Luc Le Meunier, bousculé par la polémique sur l'envoi de photos de lui nu à des femmes, une décision responsable que cette démission a dit ce matin le Premier ministre.
Tout le monde ou presque à Internet, et c'est le presque qui pose problème.
85% de la population a Internet, mais presque 7 millions ont un Internet de mauvaise qualité, qui ne permet pas, par exemple, de regarder des vidéos.
On repasse par la case sommeil en cette journée nationale consacrée à notre occupation quotidienne.
Près d'un quart des Français somnolent dans la journée, ça veut dire quelque chose.
Avant de se reposer peut-être ce week-end, bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
On vous parle souvent de cagnottes dans Une Heure en France, pour une cause quelconque, solidaire le plus souvent. Celle qui suit est très surprenante et c'est sans doute une première.
Des détenus de la prison de Villeneuve-les-Maguelones, près de Montpellier, ont lancé une cagnotte pour venir en aide à un surveillant de 54 ans qui vient de perdre sa femme de manière brutale et qui se retrouve seul avec 4 enfants en bas âge. Le secrétaire du syndicat EFO a découvert l'initiative après avoir assisté aux obsèques de la femme de son collègue.
En 24 ans d'ancienneté, c'est la première fois que je suis confronté à ce style d'opération émanant de détenus. Hein, on a coutume de dénoncer à juste titre les agressions que subissent les personnels pénitentiaires. Nous devons aussi de souligner les comportements positifs des personnes détenues lorsque celles-ci montrent de la reconnaissance envers les personnels pénitentiaires. Nous côtoyons des personnes détenues pendant des années. Ça crée des liens, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc forcément, Étienne, on voit par cette opération-là qu'il bénéficie vraiment de beaucoup de sympathie de la part d'une frange des détenus, voire de la grande majorité. C'est quelqu'un de très respectueux et de très respecté dans ses pratiques professionnelles. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir pour lui, qui vit des moments difficiles en cette période.
Une cagnotte de détenus dans l'Hérault pour un surveillant qui a perdu sa femme.
Une initiative inédite en prison qui s'est faite avec l'accord de la direction de l'établissement.
Le maire du Havre a démissionné hier soir pour protéger sa famille, dit-il, sur fond de polémique liée à la diffusion de photos de lui nu à des femmes.
Luc Le Meunier, qui avait remplacé Édouard Philippe à la mairie du Havre, savait qu'une enquête de France Bleu Normandie et de la cellule investigation de Radio France allait publier les témoignages de plusieurs femmes qui l'accusent de leur avoir envoyé des selfies porno. Ces femmes témoignent sous couvert d'anonymat, Christine Wurtz.
C'est à l'école privée de leurs enfants qu'Élise rencontre Luc Le Meunier. En 2005, il fait même partie des invités à son mariage. 6 ans plus tard, cette catholique pratiquante adhère à l'UMP, côtoie régulièrement Luc Le Meunier, alors adjointe au maire, et un soir, elle reçoit 4 photos.
Très haute, sexuelle, dégoûtante. Moi, ça m'a vraiment dégoûtée. Parce que c'est absolument pas normal de recevoir des photos quand on n'a rien demandé. Il n'impose pas des photos comme ça à des gens. Parce qu'on n'a rien demandé.
À l'époque, son mari réclame des explications à Luc Le Meunier, mais l'affaire en reste là. En 2014, Luc Le Meunier prend du galon, directeur de la campagne d'Édouard Philippe et en bonne place sur la liste. Choqué qu'il soit ainsi mis en avant, le couple transmet les photos à une colistière qui fait la sourde oreille.
À l'époque, fallait se taire, parce qu'il y avait les élections, c'était d'abord plus important. Enfin, ça donnait une piètre image de la politique quand même. On se dit catholique, où on met ses enfants dans des écoles privées, où en même temps on a une certaine notoriété et on montre pas du tout le bon exemple.
L'affaire de la photo passe pour une opération de déstabilisation politique. Mais en mars 2017, Sophie, très active dans la campagne d'Édouard Philippe, reçoit elle aussi des photos pornographiques de Luc Le Meunier. C'est elle qui témoignait sur notre antenne mardi. La même année, dans une collectivité, une 3e femme affirme avoir reçu une photo du même genre, sans avoir rien demandé. Elle a tout de suite exigé que ça s'arrête.
Christine Wurtz à France Bleu Normandie.
Édouard Philippe, qui a fait un aller-retour au Havre pour rencontrer son successeur, a dit prendre acte de la démission de Luc Lemonnier. C'est une décision responsable, ajoute le Premier ministre.
Le feuilleton du Brexit ne s'arrêtera pas vendredi prochain, le 29 mars, comme prévu. L'Europe a accepté un report avec deux options, en avril ou en mai. On écoute Emmanuel Macron.
Nous avons apporté une réponse à la demande britannique, mais une réponse qui est protectrice de nos intérêts et qui permet à l'Union européenne de continuer à fonctionner. 12 avril, 22 mai.
12 avril, 22 mai. Si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce qu'ils ont déjà repoussé deux fois, la date du Brexit sera reportée jusqu'au 22 mai, à la veille des élections européennes. En cas de nouveau rejet, Londres aura jusqu'au 12 avril pour éclaircir sa position, ce qui ne dit pas encore ce qui va se passer.
À la veille d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes, l'implication des militaires de l'opération Sentinelle pour la surveillance de bâtiments officiels continue de faire des remous.
Oui, y compris au sein des premiers concernés. Écoutez ce jeune soldat qui a patrouillé 14 mois en opération Sentinelle.
On n'a rien à faire dans ces histoires de Gilets jaunes. On n'est pas là pour se battre contre notre peuple. On travaille pour la France, on ne travaille pas pour un gouvernement, on travaille pour la France. Les mecs de Sentinelle, ils sont formés comme moi, c'est tous des militaires. On ne sait pas faire du maintien de l'ordre, on n'a pas le matériel nécessaire, parce qu'on a le gilet pare-balles sur nous et le fusil d'assaut. Et on n'a pas le matériel de protection que vont avoir les CRS, on n'a pas les protège-jambes, on n'a pas toutes leurs espèces de carapaces qu'ils ont sur eux, on n'a pas le même casque qu'eux, on n'a pas de bouclier, on n'a pas de tonfa, on n'a rien de tout ça. Si les gilets jaunes, ils veulent s'en prendre à tel bâtiment protégé par l'opération Sentinelle, ils vont forcément s'en prendre aux mecs de Sentinelle. Ils vont se retrouver que tel le serpent qui est acculé dans son petit trou, quoi. Il y a un moment, il va mordre le serpent. Malheureusement, il risque d'y avoir des morts.
Des policiers, des gendarmes, des soldats, des interdictions de manifester en certains lieux, voilà comment se présente ce samedi.
C'est-à-dire une journée tendue avant d'avoir commencé, Nicolas Balu.
Oui, une forte inquiétude politique et la mobilisation des militaires de Sentinelle en rajoute une sacrée couche. Une mobilisation qui provoque une véritable levée de boucliers, et pas seulement dans le monde politique. Alors la ministre des Armées, Florence Parly, a tenté de rassurer, les soldats ne seront pas au contact des manifestants, ils protégeront les bâtiments publics. Ils ne viennent en fait que pour soulager les policiers et les gendarmes, les décharger de cette protection pour s'occuper du maintien de l'ordre. Tout ira bien donc, sauf que cette tension est due au fait que le gouvernement rajoute un élément d'instabilité alors qu'il n'avait déjà pas maîtrisé la situation samedi.
Et les appels à manifester restent nombreux.
On ne sait pas si le nouveau dispositif prévu par le gouvernement sera dissuasif, mais c'est vrai, en attendant, il y a des manifestations un peu partout, notamment à Paris, notamment au Trocadéro, à Nice, bien que la manifestation soit interdite, et elle va l'être sur un périmètre extrêmement large, semble-t-il, dit le maire Christian Estrosi.
À Toulouse, la manifestation vient d'être interdite place du Capitole.
Exactement. Bordeaux sera également concerné. Marseille. Pour Emmanuel Macron, c'est un samedi important demain. Le chef de l'État joue un peu plus que son ministre de l'Intérieur. C'est sa capacité à reprendre la main dans une sortie de crise. Une main que l'exécutif a perdue en l'espace de 24 heures.
Nicolas Balu sur France Bleu.
13h08 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera un concert à la neige et des conseils pour mieux dormir en cette journée nationale du sommeil. Mais avant, on veut reparler d'Internet. On est bien conscient que quand on vous conseille de prolonger une information en allant sur francebleu.fr, la majorité a cette possibilité, mais pas la totalité des auditeurs.
85% de la population a Internet, mais parmi ceux qui ont Internet en France, près de 7 millions n'ont pas un accès correct. Et le très haut débit, voire le haut débit pour tous, ce n'est visiblement pas pour tout de suite, Sophie Ovigne.
La fameuse fracture numérique, elle est toujours là, les plus petites communes étant les moins gâtées, avec un débit sans comparaison jusqu'à 43% inférieur à celui des zones denses. Pour ouvrir une page web, ça passe, pas pour voir une vidéo. Il y a bien des plans pour l'avenir, un haut débit de qualité pour tous en 2020, ou en 2022 la fibre pour 80% des Français. Mirage selon l'UFC, pas avant 2029 au mieux. Puisqu'aujourd'hui encore, la moitié des consommateurs ne sont pas éligibles à la fibre. Il y a même 400 000 personnes sans accès à Internet du tout. Alors l'UFC suggère de concentrer les efforts, non pas demain sur la fibre dernier cri, mais tout de suite sur le réseau cuivre historique qui devrait faire l'affaire. D'autant qu'Internet va devenir incontournable pour se soigner avec la télémédecine, pour la déclaration des revenus, les objets connectés ou le streaming, entre autres.
Sophie Ovigne, et l'accès à Internet, on ose à peine vous dire qu'il y a plus de détails sur francebleu.fr.
Alors certains n'ont pas Internet et d'autres vont trop sur Internet, notamment tard le soir et ça joue sur le sommeil.
On a découvert il y a quelques jours que nous dormons moins qu'autrefois à cause des écrans ou du stress. On a aussi parlé des effets de la pleine lune sur le sommeil hier, mais là on ne va pas interdire la lune.
J'ai un sommeil saccadé, c'est-à-dire des phases de réveil. Je sais que c'est moins réparateur qu'un sommeil complet, uniforme, mais bon, c'est comme ça.
C'est des périodes, c'est pas saccadé, c'est soit je vais pas dormir du tout pendant 8 jours, ce qui m'est arrivé il y a quelques temps, soit là c'est très bien.
Je me couche tard, 2h30, puis je me réveille 8h, 9h. Je peins, j'aime bien peindre la nuit.
Moi je peins pas, mais nuit saccadée, oui. Je me réveille régulièrement. Ça m'embête, mais bon, est-ce que vous laissez comme ça ?
Simon Soubieux à la rencontre de sommeil saccadé.
Alors nous le disions, c'est la journée du sommeil en ce 22 mars, c'est l'occasion d'en remettre une couche. Car nous dormons quand même le tiers de notre vie, mais pas assez donc, Kevin Dufraîche.
Oh, qu'il est dur le réveil. La principale raison du manque de sommeil, c'est le travail dans beaucoup de domaines. Il amène à rentrer tard. Pour certains, les temps de transport sont importants et tout ça repousse l'heure du coucher. Autre chose, dans certains métiers, on est toujours sollicité, même une fois rentré à la maison, par les mails et le téléphone portable. Surtout, certains métiers obligent aussi à être toujours joignables. Ça peut perturber le sommeil. Et puis, lié à cela, l'utilisation des écrans. La lumière de nos smartphones, tablettes et ordinateurs empêche de dormir.
Non, il est tard, il faut dormir. Ah, allons. Bon. Allez, bonne nuit.
L'étude de Santé publique France explique que ce sont surtout les jeunes actifs qui dorment peu, soit ceux qui travaillent le plus et ceux qui sont le plus connectés.
Kevin Dufraîche et notre sommeil vu d'Auxerre.
Allez, on va faire connaissance avec la Moldavie ce soir, la petite république entre la Roumanie et l'Ukraine.
Capitale Chisinau, comme tout le monde le sait.
Bien sûr.
On dit que les paysages moldaves ressemblent à ceux de la Bourgogne.
Oui, mais c'est surtout un terrain de football qu'on va voir ce soir.
C'est vrai. L'équipe de France débute sa campagne pour l'Euro 2020 face à une équipe classée au 170e rang mondial. Les Français semblent prévenus, ne pas se laisser endormir, comme dit Paul Pogba, briefé par son sélectionneur Deschamps.
Vous connaissez le coach, il est très direct, très droit et il veut toujours gagner. Donc là, pour ce match, pour ces matchs qui arrivent, il veut toujours une concentration maximale et la victoire.
Paul Pogba était le sportif français le mieux payé l'an passé, mais il a été détrôné cette année par Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, selon le magazine L'Équipe du Jour.
Et quand on est le mieux payé, c'est-à-dire c'est combien ?
33 millions d'euros par an de salaire brut, Frédéric.
D'accord.
Le top 10 est sur francebleu.fr. Et pour relancer le débat, il n'y a aucune femme, aucun tennisman, ni aucun rugbyman dans le top 50 des sportifs les mieux payés.
Pas très surprenant. Tout à l'heure, nous serons au Grand Bornand, en Haute-Savoie, à l'heure de Glisse en cœur. C'est une course de ski en relais et des concerts au profit d'une cause. Cette année, la lutte contre la mucoviscidose avec notamment l'association Grégory Lemarchal qui est mort en 2007.
Ouais, pour le ski, on va vérifier sur place avec une équipe France Bleu qui est engagée pour les concerts. Non, pour les concerts, ce que je veux dire, c'est qu'on a repéré Louis Bertignac, qui a eu l'idée, savez-vous, récemment, de reprendre à sa sauce les chansons qu'il a aimées quand il était jeune.
Ouais, c'est ainsi que Cocaine d'Eric Clapton devient, chez l'ex-membre de Téléphone, Coquine.
Avec le riff de guitare bien connu.
Tu m'as bien déchiré, coquine. Tu m'as traîné par terre, t'as foutu ma vie en l'air, coquine. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, oh, coquine. Coquine. Tu m'as ruiné le goût, tu m'as niqué l'envie. Tu m'as mis sur la paille, tu m'as cloué au rail, coquine. Tu fais mal, c'est pas toi, c'est comme ça, coquine.
Bertignac en concert au Grand Bornand demain samedi. Nous, on sera dans le massif des Aravis, au pays du Reblochon, voyez-vous, à 13h30, Frédéric.
Mais avant cela, on va passer par la Haute-Garonne avec un apiculteur qui a eu une idée folle. Et puis, on sera aussi à la mode Beuvron sur les traces de la tarte tatin.
Alors attendez, ça nous donne miel, ski, musique et dessert jusqu'à 14h, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà la météo.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez. Comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.